chirurgie naturelle par le père Philippe à Saint-Joseph, le 31 janvier 85.
Nous avions essayé de voir la dernière fois quelque chose d'important pour nous, de bien comprendre, dans la lumière de l'infini de l'être de Dieu, comprendre la limite de la créature et de l'homme, limité dans son essence, ouvert à l'infini dans sa vie. Et c'est peut-être ce qui est le plus important pour nous à bien saisir. Je vous disais ça en terminant, je reviens un instant là-dessus parce que je crois que c'est très important. Tout l'ontologisme que nous verrons demain au séminaire avec Malebranche, ce soir je veux dire au séminaire avec Malebranche, parce que c'est intéressant de voir comment l'ontologisme est bâti sur le point de vue de l'infini. Tout l'ontologisme donne naissance à l'athéisme. Alors, il faut bien saisir ce que Feuerbach dit à propos de l'infini, puisque c'est lui qui est au fond la gare de triage des athéismes. Alors, il faut comprendre comment il confond l'infini au niveau de l'esprit, l'infini de l'intentionnalité au niveau de l'intelligence et de la volonté, et l'infini au niveau de l'être. Puisque l'homme est infini dans son intelligence, Dieu ne peut pas exister. Ça, son raisonnement, je le simplifie, mais ça se ramène à ça. Et qu'en réalité, quand on parle de l'infini de Dieu, on projette sur Dieu tous nos désirs. Et on n'a pas assez de force pour porter cette responsabilité d'être un être infini. C'est pas commode de porter la responsabilité d'être un être infini. Un être qui doit toujours progresser, c'est ça que ça veut dire. Vous devez toujours aller plus loin dans l'ordre de l'intelligence. Vous ne pouvez jamais dire que c'est suffisant. Donc très essoufflant ça. Vous ne pouvez jamais dire c'est suffisant. Maintenant, je peux m'arrêter. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. C'est-à-dire à une vérité que nous devons tout le temps indéfiniment rechercher. Pour jamais dire c'est suffisant. C'est jamais suffisant dans l'ordre de l'amour, c'est jamais suffisant dans l'ordre de l'intelligence. De sorte qu'un être qui est infini, qui possède cet infini, a une responsabilité quasi infinie. Alors, c'est trop lourd pour lui. Il aime de se reposer sur quelqu'un d'autre. Et donc il projette sur un autre cette responsabilité plutôt que de la porter seule. Et donc il prétend qu'il existe un Dieu infini. On voit très bien le mécanisme, c'est assez facile à comprendre. Si on confond l'infini de l'intentionnalité et l'infini ontologique. Alors je vous disais qu'il fallait bien comprendre cette parole de Maître Eckhart. C'est intéressant de prendre Maître Eckhart parce que nous savons que Maître Eckhart a quand même eu une certaine influence sur Heidegger, et que Maître Eckhart, à ce point de vue-là, il est à la fois théologien, thomiste, mais pas toujours très précis, comme disait un vieux professeur dominicain que je connaissais bien. Maître Eckhart, on l'a écarté. Vous voyez bien, on l'a mis en dehors parce que c'était quelque chose d'un tout petit peu trop délicat. Et Maître Eckhart, quand il commente dans la Genèse le point de vue de la création, Dieu crée des êtres, mais il ne crée pas la vie. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et je crois que c'est très fort. Dieu crée des êtres parce que le point de vue de la création, c'est laisser participer. Et ça, c'est formellement saint Thomas. Saint Thomas ne dit pas que la raison formelle de la création, c'est vivere. Non, non. C'est esse participer. Et Dieu crée des êtres suffisamment parfaits pour être des vivants. Et c'est pour ça que l'immanence de la vie peut être ouverte à l'infini. Le vivant comme tel est dans l'immanence. Et le vivant comme tel n'a pas de limite. Il est ouvert à l'infini. C'est pour ça qu'au sens strict, Dieu ne crée pas la vie. Il crée des êtres qui seront vivants. Mais ce n'est pas la même chose du tout. Vous voyez ? Et ça, c'est très très important de comprendre cette distinction. Parce que je crois que c'est le manque de cette distinction qui est au cœur de tous les ontologismes et de tous les athéismes. Puisque l'athéisme et l'ontologisme sont dans le même genre. C'est-à-dire font la confusion entre le vivere et l'essai. Alors ça, il faut le saisir. Hein. Une fois qu'on a saisi ça, on voit mieux la naissance des athéistes contemporains, qui est une réaction violente contre l'ontologisme. Et l'ontologisme, c'est une confusion d'une philosophie dite chrétienne. Parce que on confond le point de vue de la foi et le point de vue de l'intelligence. Oui. Au fond, c'est une conséquence du fidéisme. L'Église a condamné le fidéisme. C'est pas pour rien quand l'Église condamne quelque chose. Hein. C'est qu'elle sait que ce sera source de très grandes confusions. Et que ces confusions amèneront des destructions. En condamnant le fidéisme, l'Église prévoit l'athéisme. S'il n'y avait pas eu de fidéisme, il n'y aurait pas eu sans doute d'athéisme. Hein, c'est ces choses-là qu'il faut saisir. Le fidéisme, c'est la confusion de l'aspect de la foi et l'aspect de l'intelligence. Alors, on ne voit pas suffisamment les exigences propres de l'intelligence et ce qu'est le mystère de la foi. L'intelligence, elle, atteint l'être. Et donc l'intelligence est capable de distinguer le vivere et l'essai. Ce que Hegel n'a plus fait. Parce que Hegel ne regarde plus l'intelligence dans son objectivité ultime, mais regarde une intelligence repliée sur elle-même, dans son processus. Si je regarde l'intelligence dans son devenir, je confonds le devenir, je confonds le vivere et l'essai. Et c'est vrai que l'intelligence représente la vie la plus parfaite, la plus noble. Alors, c'est la question de savoir si la vie la plus noble rejoint l'être. Les confusions se font toujours au sommet, pas à la base. Mais au sommet. Alors, la vie la plus parfaite, c'est la vie de l'intelligence. Et c'est donc l'intelligence qui est capable de discerner le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. C'est le propre de l'intelligence, là. Mais si l'intelligence se replie sur elle-même, alors à ce moment-là, elle ne voit plus que son vivre. Elle voit la vie dans ce qu'elle a de plus parfait. Et je crois que c'est la position hégélienne. Hegel, c'est tout simplement une intelligence qui se replie sur elle-même. Vous voyez, une intelligence fatiguée. Il ne faut pas dire ça, mais c'est ça. C'est une intelligence fatiguée. C'est une intelligence qui se replie sur elle-même. Alors, elle ne voit plus ce que saint Thomas répète 175 fois. Et il l'a répété 175 fois pour que nous ne soyons pas hegeliens. Primo cadit in intellectus ens. Il n'y pas vivere. Primo cadit in intellectus ens. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est ce qui est. L'intelligence est faite pour atteindre l'être. Et l'intelligence, en atteignant l'être, distingue l'être du vivere. Si vous distinguez l'être du vivere, vous comprenez que le vivere, que la vie, se donne dans l'immanence, puisque c'est se mouvoir. C'est le propre du vivant, c'est de se mouvoir. Donc il possède en lui-même son principe et sa fin, puisqu'il se meut comme vivant. Et parce qu'il se meut comme vivant, il ne peut pas être créé. Puisque le propre du créé, c'est celui qui justement dépend d'un premier. Et celui qui se meut, c'est celui qui possède en lui le principe de son mouvement. Donc, le vivant comme tel ne peut pas être créé. C'est extraordinaire. C'est une fois qu'on a saisi ça, on comprend pas mal de choses. Hein. Et on évite l'athéisme. Hein. On voit que Dieu crée des êtres. Il crée des êtres qui seront parfaits et qui seront des vivants, et au terme, il crée des êtres qui seront des êtres vivants et lumineux, puisque ce seront des êtres dont la vie sera l'intelligence, et l'intelligence est lumière, et donc des êtres qui seront capables de choisir et d'être libres. Alors vous voyez que la liberté se comprend au niveau de la vie, et non pas au niveau de l'être. Et vous comprenez alors cette confusion terrible de l'athéisme, d'identifier l'être et la liberté. Si vous identifiez l'être et la liberté, vous ne pouvez plus saisir l'être créé. C'est contradictoire. Vous voyez ? Autrement dit, il y a les trois dimensions qu'il faut toujours bien respecter, qui sont, du reste, c'est ça qui est extraordinaire, elles sont dans le prologue de saint Jean, elles sont dans toute la grande tradition néoplatonicienne, et saint Thomas, lui, le donne d'une manière particulièrement nette. Esse vivere intelligere. Vous voyez, c'est les trois. Ceci, j'allais dire, c'est le grand axiome constant de tout le néoplatonisme. Mais, comprenons bien, un néoplatonisme qui assume Aristote, c'est bien évident. Esse vivere intelligere. C'est les trois dimensions. Et saint Thomas précise alors ces trois dimensions. Et je crois, dans l'athéisme, ou dans celui qui prépare l'athéisme, c'est de tout ramener au vivere. L'hégélianisme, c'est le vivere qui assume l'intelligere et l'essai. Alors on n'a plus que le spectre du vivere. Le vivere, c'est l'immanence. L'immanence absolue. Et quand ce vivere est intelligere, il est dialectique. Parce que le propre d'un mouvement purement immanent, c'est d'être dialectique. Les trois moments de la dialectique, c'est le mouvement complètement immanent dans l'immanence absolue. Alors, il faut au contraire arriver à bien discerner, sans séparer Parce que pour nous, notre manière d'exister, c'est notre vie. Et notre vie, c'est notre intelligence. C'est très juste de dire ça. Il faut être des êtres spirituels. Or, pour être des êtres spirituels, il faut que votre vivere soit votre intelligere, et il faut donc que votre intelligere soit votre essai. Vous ne vivez et vous n'existez pleinement que quand vous contemplez. Ça, c'est bien évident. Vous ne vivez pleinement et vous n'existez pleinement que quand vous contemplez. Mais votre contemplation n'est pas identique à votre vie. Et votre vie n'est pas identique à votre essai. Il faut donc distinguer les trois. Une fois qu'on distingue les trois, vous pouvez dire, le créateur de Dieu regarde l'essai participer. Cet essai participer permet l'autonomie du vivant et permet la liberté de l'intelligence. L'immanence, dans sa plus grande pureté, c'est la liberté. Alors, comprenons que laisser participer est limité. Que la vie participer est limitée. En tant qu'elle est participée. C'est-à-dire en tant qu'elle s'enracine dans un être participé. Mais que la vie dans son immanence n'a pas de limite. Et que l'intelligere dans son immanence n'a pas de limite. Alors vous pouvez mettre à côté de l'intelligere le fait de vouloir, connaître vouloir. Ça c'est la liberté, puisque la liberté... c'est le lien entre les deux. Bon, je n'insiste pas plus, mais ça, je crois que c'est capital. Hein. C'est ce jugement de sagesse dans la lumière de l'infini de Dieu qui nous fait comprendre que dans l'homme, et c'est ça qui est extraordinaire, dans l'homme, vous allez pouvoir, de l'intérieur, saisir les limites de l'homme et comprendre que l'homme a une dignité d'infini. Mais vous comprenez tout de suite que vous ne pouvez pas définir la personne de l'homme par l'infini. Parce que ça a été dit chez certains théologiens, dominicains et jésuites, qui ont dit que la personne humaine se définit par l'infini. Non, la personne humaine est ouverte à l'infini, mais la personne humaine se définit par le point de vue de l'essai. Liée à l'esprit, c'est bien évident, mais la personne humaine se lie... Alors c'est vrai de dire que la personne humaine a quelque chose d'infini, mais n'oublions pas qu'elle est limitée dans son être. Et donc il ne faut pas définir la personne humaine par l'infini. Si vous définissez la personne humaine par l'infini, vous ne voyez plus comment la personne humaine est créée. Donc, la personne humaine, elle est limitée dans son être, dans son essai participé, dans sa substance. Et elle est ouverte à l'infini par sa recherche de la vérité et par sa capacité d'aimer. Y a-t-il des questions là-dessus ? Parce que ça, c'est très important, et comme nous avançons rapidement sur ces jugements de sagesse, je ne voudrais pas qu'il y ait des questions qui demeurent là-dedans, parce que ça c'est très important là. Je vous ai dit en terminant la dernière fois, je crois que c'est très très important de comprendre qu'à partir de saint Thomas qui donne à l'infini quelque chose de si important, puisqu'il considère la manière d'exister de Dieu c'est d'être infini, comment l'infini est devenu l'attribut par excellence de Dieu, et il est devenu comme ce qui constitue le point de vue de l'être humain chez Descartes. C'est par l'infini que nous touchons Dieu. Et une fois qu'on dit ça, l'infini devient premier. Oui.
Il y a certains athéismes qui, justement, à l'opposé peut-être des foyers là, se basent dans leur athéisme, dans la négation de la liberté.
Oui.
Alors, c'est vraiment.
Oui. Faisons attention. C'est très vrai. Voyez, la négation de la liberté, que d'une certaine manière, on pourrait dire que... Prenez l'athéisme de Hartmann, hein, qui nous dit, mais ce n'est pas tout à fait la négation de la liberté, c'est la limite de la liberté. Ce n'est pas la négation. Je ne crois pas que c'est la négation absolue. Ou bien alors, à ce moment-là, vous ramenez l'être humain, tout simplement, en supprimant l'esprit. Vous voyez ? Alors c'est le positivisme. Vous voyez ? Alors, le positivisme est encore un anti-ontologisme, mais très spécial. Mais voyez, si vous êtes positiviste, allez jusqu'au bout de votre positivisme, vous niez l'esprit. Le positiviste, c'est celui qui nie l'esprit. Hein ? Donc, qui nie la liberté. Parce que vous ayez ça d'une certaine manière dans Freud, pousser Freud jusqu'au bout, il n'y a plus de liberté. Au sens, puisque vous, ce qui est le plus essentiel en vous, c'est un complexe. Hein ? Vous êtes un être tellement complexé que le plus intime de vous, c'est votre complexe. Or, le complexe supprime la liberté. Parce que tout ce qui provient du complexe devient nécessaire sans liberté. Ça s'impose comme vous voyez. Donc, Freud poussé jusqu'au bout, c'est la négation de la liberté. C'est le positivisme. Le positivisme, c'est tout simplement de comprendre que la connaissance humaine est une connaissance qui se fait uniquement par l'observation et la mensuration. Vous voyez ? Mais le positivisme ne niera pas la limite de l'intelligence. Il dira, la science peut aller toujours plus loin. Vous voyez ? Donc vous retrouverez le point de vue de l'infini de ce côté-là. Oui, c'est en ce sens-là que le positivisme nie le miracle. Il constate bien qu'il y a quelque chose que la science ne peut pas expliquer maintenant, mais il dira, demain la science pourra l'expliquer. Oui, c'est le demain de la science qui va l'expliquer. Donc c'est encore cette espèce d'espérance, d'infini dans la connaissance que nous retrouverons. Alors ce n'est plus l'infini du côté de la liberté, ce n'est plus l'infini du côté de l'amour, c'est uniquement l'infini de ce progrès indéfini de la science. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, chez les plus grands savants, il y a un dépassement du positivisme parce qu'ils voient les limites de la science. Oui.
Quand on parle de vie participée.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Quand on parle de vie participée.
Oui, vie participée par le point de vue de laisser participer. Oui. Notre vie est participée parce qu'elle est liée à notre laisser participer. Mais la vie comme telle est purement immanente, donc elle n'est pas participée. Si je prends la vie comme telle, vous voyez, si je formalise sur la vie, comme si je formalise sur l'intelligere, c'est infini.
Est-ce que l'imagination
n'a pas quelque chose d'infini ? Oui, l'imagination a quelque chose d'infini. C'est très vrai que l'imagination a quelque chose d'infini. À cause de l'intelligence. Que je crois que c'est à cause de l'intelligence, à cause de l'esprit. Vous voyez, c'est le lien de l'esprit de l'intelligence, le lien de l'intelligence et d'imagination qui donne ce côté infini. L'inspiration. L'inspiration, vous êtes dans l'ordre des possibles. Et c'est infini. Oui. Alors là, on peut le dire. Mais c'est radicalement, ça se rattache à l'intelligence. C'est pas un nouvel infini, vous voyez. C'est un infini qui provient de l'intelligence. C'est parce que l'intelligence, de fait, et la volonté sont infinies que l'imagination est infinie.
Est-ce que l'intelligence est pas un cas particulier qui
vivait dans la réalisation
et ses
limites ? Je l'entends pas.
Est-ce que l'intelligence n'est pas un cas particulier qui vivait ?
Un cas éminent. Maximé. C'est l'intelligere, c'est le vivant, mais il y a quelque chose de plus. Alors c'est ça la chose très très divisible. Pouvez-vous expliquer entièrement le point de vue de l'intelligere par le vivere ? quelque chose de particulier de l'intelligere qui n'est pas dans le vivere. C'est pour ça que je dis ramener l'intelligere au vivere. Il y a dans l'intelligere la saisie de l'être, ce qui n'est pas dans le vivere. Autrement dit, si vous voulez, on pourrait dire ceci. Le vivere, évidemment, en lui-même n'implique aucune imperfection. Alors, en Dieu, le vivere, c'est son intelligere. Et c'est en Dieu. En vous, non. Votre vivere n'est pas votre intelligere. Votre intelligere, c'est la fine pointe de votre vivere. C'est quand vous vivez avec une très grande intensité que vous êtes intelligent. N'est-ce pas ? Mais quand vous vivez post-shiboum, votre intelligence est alors beaucoup amortie, et alors vous êtes dans un vivere de celui qui digère. Alors qu'à ce moment-là, le vivere est moins spirituel. Vous voyez, dans le vivere, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'aspect substance et opération vitale. Donc l'être et le devenir qui sont liés. C'est le propre du vivere, c'est de lier être et devenir. C'est très étonnant ça. Et le propre de l'intelligere, c'est de saisir l'être pur. Le vivere comme tel ne fait pas, ne peut pas séparer être et devenir. Et seul l'intelligere peut saisir l'être pur. C'est ça qui me semble très intéressant. Et c'est par là que vous voyez qu'il y a dans l'intelligere quelque chose qui ne peut pas se ramener au vivere. Le vivant, c'est toujours quand on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le vivant. Le vivant implique une âme substantielle et une opération vitale, des opérations vitales. Donc le vivere implique toujours substance et opération vitale, être et devenir. Dans le vivant, les deux sont liés. Et d'une certaine manière, on ne peut plus les séparer dans le vivant. Il implique toujours les deux. C'est du reste qui fait comprendre tout l'aspect hegelien. C'est que l'être et le devenir sont liés parce qu'au niveau de la vie, les deux sont intimement liés. C'est l'intelligere qui, dans toute sa pureté, peut saisir l'être distincte du devenir. C'est l'intelligence qui fait ça, cette distinction. Et c'est l'intelligence seule qui peut faire cette distinction. Et c'est l'intelligence en tant justement qu'elle dépasse le vivere. C'est pour ça que l'intelligence peut comprendre la contemplation. Et la contemplation, c'est justement le sommet d'une intelligence qui, elle, dépasse le devenir. Et dépasse le vivere d'une certaine manière. Je vis pleinement dans la contemplation, mais la contemplation est un repos. Et si c'est un repos, c'est le semovere qui accepte d'être dépassé. Le silence, quand Plotin parle du silence, au-delà justement de tout mouvement. Le silence comme tel, le silence de la contemplation. Le silence de la contemplation est au-delà du devenir. Et c'est le repos. Et c'est pour ça qu'on parle de repos pour une intelligence. Nous allons maintenant regarder le
signe.
Ah, quand ça te m'a dit... Maître Eckhart. Ah, Maître Eckhart. Ah non, Maître Eckhart affirme ça, c'est pas un postulat pour Maître Eckhart. C'est au fond tout le fruit de sa réflexion, de sagesse. Oui, mais vous pouvez très bien. Dans ce jugement de sagesse, hein, je dis laisser participer et limiter. Nous l'avons vu. Pourquoi ? Parce que laisser participer, il est reçu. Et donc, je reviens à la première affirmation que nous avions vue. Dans la lumière de la simplicité de Dieu, je peux dire que dans toute créature, il y a distinction entre essence et existence. Hein ? Ça, c'est un jugement de sagesse. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est là, ça, vous êtes dessus. jugement de sagesse. Le jugement de sagesse fait que l'essai est participé et que donc il y a une distinction réelle entre essence et existence. C'est celui-là qui montre le point de vue de la création comme telle. Quand il s'agisse du vivere, il se s'il se meut, il a donc en lui-même le principe même de son mouvement. S'il a en lui-même le principe de son mouvement, il n'est pas abalio. Et donc, il n'est pas créé. Attention, c'est un principe d'autonomie selon la forme, ce n'est pas du tout principe d'autonomie au niveau du mouvement. Ah oui, un principe d'autonomie, si vous voulez, la substance comme telle est un principe d'autonomie, mais c'est un principe d'autonomie que j'ai saisi dans l'analyse et que je suis obligé, après avoir vu la distinction de l'essence et de l'existence, de voir de l'acte et de la puissance, de voir que face à l'acte premier, l'essence est limitée par rapport à l'essai, puisque l'essai participait. Oui, la création. Voyez, dans la lumière de la création, qu'est-ce que je vois? Que toute créature implique la distinction d'essence et d'existence. Bon, je réfléchis à ce moment-là que le principe d'autonomie de la créature, du moins le principe d'autonomie de la réalité que j'expérimente, qui est la substance, c'est au niveau proprement d'un principe. Ce principe existe dans la limite. Il demeure. Vous voyez bien le passage. Le passage de ma saisie. Je vois votre question. La substance est saisie comme un principe d'autonomie, mais comme un principe d'autonomie. Je ne dis pas au niveau de l'essai. Tandis que le c'est au niveau de l'essai. Vous ne pouvez pas abstraire, lorsqu'il s'agit de la vie, le point de vue de l'essai. La vie implique l'essai. Le « si me verrait » n'est pas un principe, c'est une constatation existentielle. Tandis que votre objection de la substance, c'est au niveau du principe. Ce n'est pas au niveau existentiel. Vous voyez? Tandis que le « si me verrait », c'est au niveau existentiel. Donc, il se meut. Et du fait même qu'il se meut, il a en lui une autonomie. Autrement, il ne serait pas un vivant. Tandis que vous ne direz pas, cette réalité qui existe, elle est indépendante. Mais non, vous n'avez jamais vu un être indépendant. Tandis que vous avez vu un vivant qui se meut. Tandis que vous n'avez pas vu un être indépendant. Vous saisissez par l'intelligence qu'il y a radicalement dans votre être une autonomie. C'est très beau, puisque vous voyez que cette autonomie, elle est source pour vous de liberté, elle est source d'autonomie. Mais vous le saisissez au niveau du principe, pas au niveau de l'expérience. Vous n'avez jamais saisi l'autonomie de votre être, puisqu'elle n'existe pas. Mais vous avez saisi l'autonomie d'un principe d'être. Hein? Tandis que vous saisissez l'autonomie du vivant. Ah, j'ai l'expérience de mon autonomie de vivant. Que la vie n'est pas créée à cause de ça. C'est que le « c'est me verrai », c'est le point de vue de la vie. Et que le vivant, par le fait même, implique une autonomie. Or, ce qui est créé implique d'être abalio, donc implique d'être dépendant. Qu'est-ce que c'est que d'être créé? C'est d'être abalio, c'est d'être dépendant. Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? C'est movere, c'est d'être autonome. Donc il y a une contradiction entre les deux, vous voyez? Si je ne fais plus la distinction entre être et vivere, si je ne fais plus la distinction entre esse et vivere, confusion qui existe dans l'ontologisme, confusion qui existe dans Feuerbach, Je dis, la créature est impossible puisque c'est le vivant. Et que le vivant a une autonomie dans sa vie. Donc il ne peut pas être abaligné. Oui. Laissez participer abaligné. Le vivéré ne peut pas être abaligné. Il se meut. Alors, je fais tout de suite la distinction, ce n'est pas contradictoire parce que c'est sur deux plans différents. Vous voyez ? Tout de suite, je fais la distinction, ce n'est pas contradictoire, c'est sur deux plans différents. La contradiction joue quand c'est sur le même plan. Je ne peux pas affirmer et en même temps nier la même chose par rapport à la même réalité. Mais si je distingue abaligné au niveau de laisser participer, mais autonome au niveau de la vie. Mais si je confonds vivere et esse, si je ne suis pas arrivé à distinguer esse et vivere, alors contradictoire. Or, je constate que je vis et que je suis autonome dans ma vie, donc je n'existe pas. Vous voyez ? Tandis que vous n'avez pas l'expérience de votre esse autonome. Si vous aviez l'expérience de l'essai autonome, vous diriez « Dieu n'existe pas ». Vous voyez ? Oui.
Quand on dit que la substance est cause, la donc un caractère existentiel aussi.
Cause, la cause, c'est quoi ? C'est un principe. Un principe n'existe pas comme principe. Il est réel, mais il n'existe pas comme principe. Oui. La manière d'exister d'un principe, c'est quoi ? C'est d'exister dans votre intelligence. Vous avez cette supériorité de pouvoir penser un principe. Mais le principe, il n'existe jamais comme principe. On n'a jamais vu marcher un principe. C'était Père Garrigou Lagrange qui disait « Faites votre promenade tous les jours avec un principe à côté de vous. » C'était merveilleux. On s'appuyait sur la canne du principe, vous voyez. Mais on ne peut pas voir un principe. C'est le principe n'a pas d'existence par elle-même. Il n'existe que dans mon intelligence. Mais il est réel. Vous voyez. Alors je ne dirais pas d'ordre existentiel, je dirais d'ordre réel. Il est vraiment une source d'exister. Mais il n'est pas l'exister. Oui. C'est l'intelligence qui saisit le principe. Et l'intelligence seule saisit le principe. Le principe est réel, ce n'est pas un être de raison, c'est un être réel, mais il n'existe comme principe que dans mon intelligence, que quand je le pense. Mais la substance, elle existe toujours, même quand je ne la pense pas, heureusement. Mais comme principe, c'est-à-dire dans son indivisibilité, elle n'existe que dans mon intelligence. Tandis que le « c'est me verré », c'est une manière d'exister. Le vivant se meut, comme vivant. C'est une manière d'exister. Et le principe vivant, c'est l'âme. Vous voyez, je ne parle pas de l'âme, je parle du « c'est me verré ». Et je parle de la vie, donc, qui implique le « c'est mauvais ». Non, c'est très fort, c'est au fond. Vous voyez, Maître Eckhart le dit un peu comme une intuition, si vous voulez, il ne précise pas. Mais c'est une intuition que je peux préciser, en voyant que de fait, il y a en effet laissé participer le « c'est mauvais ». Et donc, en tant qu'il est « c'est mauvais », il ne peut pas être créé. Puisque qui dit créer, dit « abaligné ». Réfléchissez là-dessus. Et puis si vous avez des questions, parce que ça vaut la peine, c'est la clé qui permet de rester dans le puits et l'abîme de Feuerbach ou d'en sortir. Et comme Feuerbach joue ce rôle très important par rapport à tous les athées contemporains, c'est très intéressant de saisir le moment de la confusion. C'est toujours ce qu'on doit faire au point de vue philosophique. C'est de saisir le moment de la confusion. Comment un homme intelligent a pu dire ça ? Il a pu le dire parce que justement, s'il avait lu plus attentivement Maître Eckhart, on aurait fallu Auerbach lisant Maître Eckhart, non ? S'il avait lu plus attentivement Maître Eckhart, quand il est arrivé au ciel, il a été reçu par Maître Eckhart. Et Maître Eckhart lui a dit, mais tu aurais dû regarder ça. Bien à ce moment-là, tu n'aurais pas fait cette confusion. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le dialogue merveilleux qu'on peut faire entre les philosophes. Non et ce dialogue, c'est vrai, parce que quand on saisit comme ça avec beaucoup d'accueil, moi ça m'a beaucoup frappé de découvrir ça. Parce que c'est vrai, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on dit très bien, laissez vivre, bon, intelligirez, très très bien. Mais quand on voit quelqu'un comme Maître Eckhart dit, Dieu ne crée pas la vie. C'est quand même quoi. Il crée des vivants par laisser participer. Mais la vie comme telle, elle a quelque chose qui implique une autonomie fondamentale. Le vivant a quelque chose d'une autonomie fondamentale. C'est comme ça que je ne peux pas dire Dieu crée la liberté. Ça n'a pas de sens de dire Dieu crée la liberté, parce que qui dit liberté dit justement autonomie, et qui dit créer des dépendances. Je ne peux pas le dire, alors. Je ne peux pas dire que Dieu crée la liberté, comme je ne peux pas dire que Dieu crée, voyez, l'intelligence comme telle. Il crée des êtres intelligents, il crée des substances intellectuelles, mais il ne crée pas des intelligences. Des substances intellectuelles, c'est pour ça qu'Aristote insiste toujours, des substances intellectuelles, et dit pas des intelligences. Le néoplatonisme dira des intelligences, et en disant des intelligences, il y a quelque chose qui n'est pas précis, parce qu'au sens strict, Dieu ne crée pas des intelligences, il crée des êtres intelligents, il crée des substances intellectuelles. Bon, continuons. C'est bien que ça vous secoue dans vos racines profondes pour saisir ce que ça représente. Sixième jugement d'existence. Alors vous voyez que progressivement, par là, grâce à ces jugements de sagesse, nous assumons tout le point de vue de l'existentialisme. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est une philosophie existentielle que nous faisons. Ou existentielle. Si on maintient la distinction existentielle et existentielle de Heidegger, je crois qu'il faudrait dire que l'existentiel, il est là, dans un jugement de sagesse. Parce qu'au niveau de la connaissance, c'est plutôt existentiel. L'existentiel, c'est la structure de l'être. Alors la structure de l'être créé, je la saisis dans la lumière des attributs divins. Si l'être premier est infini dans son être, il ne peut être en mouvement. Il est au-delà du mouvement. Il est immobile, immuable. Il a une stabilité absolue. Tandis que toute créature, du fait même qu'elle est limitée, est capable de transformation et de mouvement. Alors là, ça va être extrêmement intéressant de voir ça. C'est la contingence radicale de la créature qui est dans cette distinction essence-essai. Toute créature, du fait même qu'elle est créature, est capable d'être transformée. Et elle est capable même d'être anéantie. Ce qui est encore mieux. Ça, c'est la fêlure fondamentale. Il ne faut pas trop y penser parce que ça vous donnera l'angoisse métaphysique. L'angoisse métaphysique, c'est ça. C'est que je pourrais ne pas être. Vous voyez la fameuse question de Leibniz, hein? Pourquoi être plutôt que ne pas être, hein? C'est plutôt être ou ne pas être. Pourquoi? Ah, c'est un jugement de sagesse. C'est pas du tout une expérience immédiate. Vous voyez, là encore, confusion entre la voie d'invention, la via inventionis, et la via du jugement, de sagesse. Alors, comprenons bien cette affirmation très très belle, elle aussi, c'est très important de dire ça. c'est de saisir, vous voyez, la fragilité fondamentale de la créature, la précarité fondamentale de la créature. Donc les fêlures qui sont en nous. Bon, on a vu, quand la distinction d'essence et d'existence, c'est vrai, c'est la fêlure radicale qui est en nous. Ici, nous saisissons la précarité. Toute créature, du fait même qu'elle est créée, peut disparaître. C'est pas drôle du tout. Toute créature, du fait même qu'elle est créée, peut disparaître. Oui, le vertibile ad nihilum, comme dit saint Thomas. Le vertige du néant. Eh bien, le vertige du néant est inscrit dans toute créature du fait même qu'elle est créée. Il y a un poids vers le non-être. Du fait même qu'on est créé, il y a un poids vers le non-être. Il y a une saveur de néant. Très bien, vous pouvez y aller alors. Alors à ce moment-là, il y a une saveur de néant, il y a une saveur de corruptibilité. Alors vous voyez, la créature, ça ne sent pas bon. Hein, vous pouvez dire ça, c'est la saveur du néant, la saveur de la corruptibilité. Il n'y a que Dieu, et là on comprend très bien pourquoi Dieu aime la bonne odeur des graisses, hein, vous comprenez là. Parce que le Père céleste, il aime les graisses des brebis. C'est agréable à Dieu. Enfin, vous voyez pourquoi? Parce que la créature, comme créature, elle est précaire. Tandis qu'au contraire, la graisse représente un état confortable, n'est-ce pas? Et alors, l'odeur de la graisse offerte à Dieu, c'est la créature qui offre son état confortable à Dieu pour reconnaître son néant.
Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.